La Première, podcast. Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La Première.
Et avec vous, Benjamin Leupart, on va donc partir sur les traces d'André Vézal. Vézal, le père de l'anatomie, qui de Bruxelles à Louvain, en passant par Paris et Padoue en Italie, a acquis la connaissance médicale et artistique qui lui a permis d'entrer dans l'histoire.
Effectivement, Laurent, il ne faut pas oublier que Vézal est un privilégié qui naît de bonne famille à la cour de Charles Quint. C'est le professeur Geert van Pamel de l'Université catholique de Louvain qui sera notre guide. Il a été, Geert van Pamel, un des conseillers scientifiques de l'exposition Hommage à Vézal qui se tient au M Museum de Louvain en ce moment à l'occasion du demi-millénaire, comme vous l'avez dit, de la naissance d'André Vézal. Vous le disiez aussi, Bruxelles est au début du XVIe siècle le centre du monde. André Vézal part ensuite pour Louvain, il n'a que 15 ans et c'est le début d'une formation d'excellence qui s'accompagne d'un toupet et d'une impertinence qu'il a acquise à la cour de Charles Quint. Et ça tombe bien parce que quand on est brillant, qu'on a raison, qu'on le sait et qu'on peut le prouver, on est en droit de faire changer les choses et c'est ce qu'a fait André Vézal.
Le fait que Vézal a entré à Louvain à 15 ans n'est pas tellement remarquable. Il y avait beaucoup d'étudiants à ce moment-là qui avaient 15 ans. Il y a des autres qui étaient encore plus jeunes. Il faut comprendre que l'université à cette époque-là, c'était plutôt une institution aussi d'enseignement secondaire. Donc les cursus qu'il a suivis à Louvain à 15 ans, c'était des cursus de latin, de logique, de physique un peu, mais en fait, ce ne sont pas des cursus approfondis. Pour avoir une éducation plus approfondie, il est allé à Paris. Et à Paris, il a commencé son étude de médecine.
Mais avant d'arriver à Leuven, André Vézal naît à Bruxelles et il devient louvainiste à 15 ans. C'est quoi l'enfance d'André Vézal, si on la connaît, dans ce début de XVIe siècle ?
On ne connaît pas très grand-chose sur la jeunesse de Vézal. Il est né à la cour de Charles Quint. Son père était pharmacien à la cour. Donc il est né dans un environnement qui est plutôt riche, qui était très le centre du monde, on peut dire, par le cours de Charles Quint. C'était vraiment le centre du monde. Donc Vézal est né avec cette perception du monde comme étant quelque chose à découvrir, à contrôler. Donc il n'est pas un scientifique qui est né avec une idée purement scientifique. Il a toujours eu cette idée cosmopolitain, cette idée aussi des pouvoirs politiques, aussi cette idée d'un monde commercial. Donc c'est plus que seulement une jeunesse de scientifique.
C'est ça. Donc à 15 ans, il intègre le collège à Leuven et à seulement 19 ans, il part pour Paris afin d'y étudier la médecine. On est en 1536.
Oui, il part à Paris. La raison pour laquelle il part à Paris et après ça à Padoue, ça n'a rien à voir avec Leuven. Ce n'est pas qu'à Leuven, il ne pouvait pas avoir une éducation bonne, mais c'est seulement que Vézal, étant un fils d'un personnage connu à la cour et se préparant pour une carrière comme médecin à la cour, il voulait voir les centres du monde. Donc il est né à Bruxelles, qui à ce moment-là était le centre du monde avec la cour de Charles Quint. Mais il allait à Paris pour voir là le centre du monde français. Après ça, il est allé à Padoue, à Venise. Et évidemment, c'est aussi un centre mondial à ce moment-là.
Car c'est la capitale mondiale de la science médicale. En 1537, c'est Padoue en Italie qui accueille André Vézal. Est-ce que c'est étonnant si c'est aussi l'Italie qui est le berceau des grands maîtres de la peinture ? Parce qu'on verra qu'il y aura une influence entre la mise en scène des écorchés qui vont venir d'André Vézal et puis les tableaux de maîtres.
Ah oui, il y a certainement cette ressemblance. Vézal s'est inspiré de la culture antique qui est en premier lieu découverte en Italie, qui est apportée par les personnes qui venaient de la Byzance, qui est apportée en Italie. Et c'est en Italie que l'humanisme d'abord a été créé par les intellectuels. Et c'est cet humanisme et cet amour de l'art qui est intéressant pour Vézal. C'est en fait l'inspiration avec Vézal commence à forger une nouvelle image du corps. Et c'est la nouvelle image du corps qui est donc en fait une image de l'homme comme un être divin. Un être divin comme l'Apollon ou l'Hercule.
Le voilà, l'Apollon et l'Hercule. On le dit, très brillant, très ambitieux aussi, Andrea Vesalius. Il n'hésite pas à contredire ce qui est enseigné jusque-là et depuis des siècles à propos de l'anatomie. Par exemple, il critique la science anatomique transmise depuis le IIe siècle par Galen, parce que, selon lui, ce qui est enseigné à propos de l'anatomie humaine est trop inspiré de l'anatomie animale.
Eh bien oui, et c'est une chose qui était bien connue au temps de Vézal, que Galen avait travaillé avec des animaux. Il n'avait pas fait des dissections sur des corps humains. Mais on croyait toujours que le génie de Galen était tellement qu'il savait faire des analogies entre les animaux et les corps humains. Et tout ce qu'on a découvert alors comme des différences entre les êtres humains et les animaux, on a toujours pensé que c'était un défaut des scientifiques après Galen. Et que Galen était certainement l'autorité en termes d'anatomie. Vézal, il a fait beaucoup de dissections. Il a fait une trentaine de dissections avant de publier son Fabrica. Et alors, il avait la confiance de dire que dans ces trentaine de dissections, il avait découvert des choses qui ne se trouvaient pas en Galen. Et il était sûr que ce que Galen avait écrit, c'est en fait quelque chose qui s'est basé sur les animaux et non pas sur les humains.
Mais il fallait oser faire ça, il fallait remettre en cause la connaissance des pères.
Certainement, c'est un geste très audacieux. C'est quelque chose qui est vraiment dans le caractère de Vézal, qu'il ose faire ça. Il faut se rendre compte que Vézal, il vient de ce cours très fameux de Charles Quint. Donc, il est vraiment quelqu'un qui...
Il a une impertinence.
Il a une impertinence qui est normale pour lui, parce qu'il vient du centre du monde. C'est quelqu'un qui représente les autorités dans le monde. Et donc, il a cette impertinence de dire, en fait, oui, Galen a eu tort et c'est maintenant un nouvel air.
Une nouvelle ère pour l'anatomie, voilà donc ce qu'a ouvert André Vézal il y a maintenant près d'un demi-millénaire. C'est le professeur Gert van Pamel de la KUL qui nous raconte ce personnage incroyable qu'est André Vézal, Benjamin.
Parce que non seulement Vézal remet en cause les ouvrages officiels d'anatomie qu'il conteste à raison, mais en plus, il développe sa propre technique pour illustrer ses propres propos. Vézal n'a pas inventé la dissection, mais disons qu'il l'a pratiquée avec un tel brio et une incroyable dextérité qu'il est devenu la référence en la matière. C'est d'ailleurs sans doute pour cette maestria de Vézal que l'exposition de Louvain lui rend hommage en portant le titre Imaging the Body, parce qu'il a rendu l'invisible visible, comme si Vézal avait inventé le moyen de voir à travers les corps.
C'est sûr, c'est vraiment Vézal qui était le premier à faire une anatomie comme ça. Il a fait une anatomie très détaillée, donc il avait aussi une dextérité énorme comme anatomiste. Il pouvait montrer des structures d'un corps que jamais un anatomiste a pu montrer. Mais aussi, il a cette autre vision du corps, une vision qui s'inspire sur une image du corps qui est positive. Avant Vézal, l'image du corps était plutôt négative. Le corps, c'était quelque chose de... où on souffre, ou un corps qui est mortel, etc. Avec Vézal, le corps devient quelque chose d'ingénieux, quelque chose de beau aussi, et quelque chose aussi d'intéressant pour les médecins.
Ingénieux aussi, la façon dont il met en scène certaines structures, il invente vraiment des attitudes, on en a parlé, mais aussi des façons de surélever des structures, de les mettre en évidence pour expliquer leur fonctionnement.
Ah oui, il s'inspire très nettement de la sculpture antique pour montrer un corps qui est vivant en fait. Ce ne sont pas des corps morts, ce ne sont pas des corps passifs, ce sont des corps vraiment
des corps
actifs, en action, oui.
De Humani Corporis Fabrica, à seulement 28 ans, en 1543, Vézal édite son encyclopédie qui révolutionnera le monde médical et culturel à 28 ans seulement.
Oui, il était très jeune, ça c'est vrai. Et même, c'est déjà son sixième livre. Donc, il était vraiment très actif dans cette période académique. Il a publié beaucoup de livres. Il a en fait écrit ce livre de Fabrica en 2 ans. C'est un livre de plus de 600 pages avec presque 300 illustrations. En 2 ans, il faut le faire. Et aussi, c'est un livre qui est écrit dans un latin remarquable, un latin humaniste avec une grande... érudition, donc en 28 ans, c'est vraiment remarquable.
Encyclopédie que l'on peut parcourir dans l'exposition qui est consacrée à André Vézal à Leuven. On lui donne des corps à disséquer. D'ailleurs, quand on pense à Vézal, ce qu'on imagine tout de suite, ce sont ces amphithéâtres où Vézal lui-même, et pas son assistant, ça a son importance, Vézal lui-même dissèque et explique l'anatomie à ses élèves.
Oui, en fait, Vézal était un professeur très engagé. Normalement, ses cours sont suivis à l'université par une trentaine, une quarantaine de personnes. Mais chez Vézal, on parle de 200, même de 500 personnes qui sont venues à son cours. C'était vraiment quelqu'un qui donne des cours sur le cadavre. Il même invite les étudiants de voir eux-mêmes aussi, de toucher le corps et donc de faire les connaissances eux-mêmes. Et non pas seulement de lire le livre ou d'écouter même le professeur. Il faut découvrir la connaissance par sa propre dissection.
Alors comment se passaient un peu ces séances de dissection? Apparemment, il y avait beaucoup, beaucoup de monde autour de la table de dissection. Mais qui assistait à ces cours?
Ben, les cours étaient organisés et aussi donc les visiteurs étaient des étudiants. Donc normalement, il y avait un professeur qui donnait un cours d'un livre d'anatomie et ce n'était pas Vézal. Donc Vézal n'était pas le professeur d'anatomie parce qu'il n'enseignait pas du livre de Galin ou de Mondino. Il enseignait à travers le corps. Donc ce sont les étudiants qui ont organisé ça, donc les démonstrations anatomiques. Mais Vézal a transformer ces démonstrations dans des cours, des vrais cours. Ce n'était pas en fait le but originel de ces démonstrations. Mais Vézal était un professeur vrai qui avait expliqué le corps pour les étudiants, même dans un sens différent que le vrai professeur d'anatomie à l'université.
Je voudrais revenir sur un acteur de ce XVIe siècle dont on n'a pas parlé, alors qu'on a parlé du corps qui est quand même sacré par ailleurs, on a parlé des connaissances qu'il a fallu bousculer pour André Vézal, mais et l'Église dans tout ça? Quelle est son influence et surtout qu'est-ce qu'elle permet ou empêche de faire pour un curieux de la nature, un curieux de nature comme André Vézal?
Ben, il y a un mythe que c'était l'Église qui a en fait défendu la dissection ou qui était une force qui n'appréciait pas les réformes de la médecine. Mais ce n'est pas vrai. En fait, Vézal n'a jamais eu de problème avec l'Église. L'Église en fait ne s'intéressait pas à l'éducation médicale. La dissection anatomique était très bien régulée. Déjà depuis le 1300, ils sont régulés comme partie de l'éducation médicale, donc seulement aux universités, dans les universités et dans le cadre d'un enseignement médical. Mais il n'y avait jamais eu des problèmes avec la dissection anatomique dans ce cadre-là. Et aussi, Vézal a fait ce que les autres faisaient encore. Donc il n'a aucune influence de l'Église dans toute cette histoire-là.
André Vézal, raconté par le professeur de l'Université catholique de Louvain, Geert Van Pamel. Benjamin, c'est vrai qu'on peut s'étonner de la liberté totale dont jouissait André Vézal pour diffuser son savoir, effectuer ses dissections. Et d'ailleurs, son influence perdure jusqu'à aujourd'hui, elle est colossale. Hein.
Et c'est d'ailleurs pour mettre en évidence cette influence de Vézal à travers les siècles et jusqu'à nous, que l'exposition montre les travaux d'autres chercheurs, artistes, sculpteurs, anatomistes que Vézal lui-même. Ça donne à l'ensemble de l'exposition du M Museum des allures d'exposition d'art ancien. Et ça ressemble à une exposition d'art ancien, si ce n'est que au beau idéal que représentait l'art ancien, eh bien on montre ici le beau réel, le beau mis en évidence par Vézal lui-même.
Le but de l'expo, ce n'est pas seulement de montrer l'influence de Vézal pendant sa vie, mais aussi l'influence de Vézal dans la civilisation européenne, en fait. Et cette influence se montre au XVIe siècle, mais aussi au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, même au XXe et au XXIe siècle, en fait. Et pour ça, on montre aussi toute cette culture de théâtre anatomique, des musées anatomiques, mais aussi l'influence sur le monde de l'art. Les artistes aussi ont eu l'influence de cette œuvre de Vézal, de cette image du corps que Vézal a engendré.
Alors, d'où venaient les corps qu'on lui donnait à disséquer?
Il y a plusieurs sources pour trouver les corps. D'abord, on pouvait le demander aux autorités. Il y avait toujours des criminels qui ont été exécutés. Et alors, on pouvait, dans certains cas, disséquer ces corps. Mais il y avait aussi d'autres façons à trouver des corps, et c'est d'aller au cimetière et trouver les personnes qui étaient dans le cimetière, qui ne sont pas morts depuis longtemps, et alors on exhume ces corps-là et on les dissèque alors.
La dissection de criminels, c'est une tradition qui ne se perdra pas. Par exemple, Smuglerius, c'est un corps d'un trafiquant particulièrement musclé qui n'a pas été livré à André Vézal, mais bien plus tard à un autre anatomiste en 1775. Et c'est une pièce qui est à voir au musée M de Leuven. On en a fait une statue qui, elle aussi, est très expressive. C'est une attitude qui est très souple, où on voit un corps qui est assis sur le côté et s'appuyant sur un bras pour voir le travail des muscles, les insertions musculaires, etc. Donc c'est une tradition en fait qu'a lancé Vézal.
Ah oui, c'est une longue tradition, et aussi avec cette pièce de Smuglerius, on a voulu montrer aussi une autre tension dans le monde de l'art. Dans l'histoire de l'art, il y avait une tension entre le beau réel et le beau idéal. Et donc le beau idéal, c'est le beau ou les normes qui sont inspirées du monde grec, le monde antique, et là, il y a aussi le monde réel, donc c'est le monde qui est inspiré par l'observation et donc aussi par les anatomies, les dissections. Avec cette statue, on a voulu montrer que dans les écoles de l'art, parce que cette pièce est fabriquée pour une école d'art, dans les écoles de l'art, il y avait aussi donc cette tension, et c'est le professeur d'anatomie qui a pris cet écorché, parce que c'est un écorché, d'une personne vraie, une personne réelle. Il l'a mis dans une position du Gaule mourant, donc une statue qui est très connue de l'Antiquité. Et donc, on peut voir là qu'il y a cette tension entre vouloir comprendre les poses de la sculpture grecque, d'un côté, et d'autre côté aussi d'avoir une connaissance scientifique du corps.
Parce qu'évidemment, le tout est plongé dans une lumière particulièrement tamisée du M Museum. On a donc un corps à l'échelle 1-1, puisque c'est un corps réel qui a été fondu, ensuite reconstruit en bois, etc. Mais donc, on a bien les proportions qui sont réelles. Et c'est là qu'on voit le rapport qu'il peut y avoir entre le beau réel et le beau antique. Alors, on va reprendre la vie d'André Vézal. Après avoir édité son encyclopédie, sa vie se poursuit. Il accompagne la cour de Philippe II, qui est le successeur de Charles Quint, et il part pour l'Espagne. Pourquoi ?
Ben parce qu'il était invité. Normalement, il est le médecin de Charles Quint. Après la démission de Charles Quint, il était libre. Il n'était pas engagé par Charles Quint de lui accompagner en Espagne. Mais c'est alors une demande de Philippe II pour devenir de nouveau le médecin de corps du roi. C'est probablement, non pas seulement parce que Vézal était un nom connu, mais aussi c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie à la cour. Et pour un empereur, un roi comme Philippe II, il est important d'avoir quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps, en fait. Donc Vézal a accompagné Philippe II en Espagne, à Madrid. Et ce n'est pas tellement un succès parce que c'est un flamand, on dit des flamands pour tout le monde qui venait des Pays-Bas. Et en Espagne, à ce moment, les flamands n'étaient pas tellement bien vus. Évidemment, nous sommes encore quelques années avant que la révolte en Pays-Bas va commencer. Donc la période de Vézal à Madrid, ce n'est pas une période très, très gaie pour lui.
D'accord, il sera un conseiller érudit, mais pas forcément apprécié. André Vézal meurt à seulement 50 ans. C'est dans un naufrage au large d'une île grecque, Zakynthos, alors qu'il voguait vers Jérusalem, toujours pour accompagner Philippe II.
Non, c'était une mission à Jérusalem, une mission de Philippe II. On ne sait pas justement pourquoi il a accepté cette mission. Peut-être il a été malade et que c'est une sorte de promesse d'aller à Jérusalem après sa guérison, mais on ne sait pas. Il ne le dit pas et il est venu à Jérusalem, on le sait, il y a des documents qui attestent qu'il était à Jérusalem. Alors il est rentré, on ne sait pas où, en Espagne, à Bruxelles, où on ne sait pas, parce qu'il a mouru en pleine Méditerranée, en fait. Donc on ne sait pas le futur qu'il a fait dans la tête à ce moment-là.
Leuven rend hommage à l'un de ses plus illustres habitants, étudiant, médecin, conseiller du roi et personnage illustre de la cour, André Vézal, à travers de nombreuses expositions, celle du M Museum, Vézalius Imaging the Body. C'est accompagné également d'autres événements. C'est une des toutes grandes fiertés, on imagine, de la ville de Leuven que d'avoir connu un personnage pareil.
Ah, certainement. Évidemment, Vézal n'est pas de Leuven, Vézal est né à Bruxelles, mais en fait c'est un privilège qu'on a à Leuven pour commémorer Vézal. C'est un de, de nos étudiants les plus illustres. Et certainement, c'est un personnage qu'on peut commémorer partout dans le monde. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui appartient à la Belgique ou à Leuven ou à une autre ville. C'est quelqu'un qui a une importance mondiale.
Hommage donc à André Vézal, chercheur, médecin anatomiste illustre dont on célèbre en ce moment même le demi-millénaire. Gerd van Pamel était avec nous. Jusque quand et où se tient l'exposition, Benjamin ?
Au centre de Louvain, au M Museum, l'exposition Andreas Vézalius Imaging the Body se tient à Leuven jusqu'au 18 janvier. Toutes les infos sur mleuven.be.